Et on parle de Garonne ce matin, Claude.
Ce fleuve dont Michel Serres parlait comme d'un être vivant. Je vais dire adieu à Garonne, avait-il dit un ami en juillet dernier, après un déjeuner à Saint-Léger sur les bords de ce fleuve que sa famille draguait et où sa grand-mère avait tenu une guinguette. Il ne disait pas la Garonne, comme ceux qui ne savent pas, mais Garonne tout simplement, Garonne dans laquelle, avec son petit frère Claude, il se laissait couler chaque matin en allant à l'école. Le garçon gonfle ses poumons, écarte les bras, les jambes, ses yeux percent l'eau trouble et sablonneux, son ventre finit par toucher celui de Garonne, le courant emporte la caresse de la peau sur les cailloux. Je lis cela sur le site du Petit Bleu, qui est le journal d'Agen, et Agen est la ville de Michel Serres, et le Petit Bleu est le journal où le philosophe a appris à lire, et le Petit Bleu en est digne, qui lui consacre des pages sensuelles d'amitié et de rugby, de chaleur d'eau et d'un métier de vase. On lit également Garonne dans La Dépêche et dans Sud-Ouest et dans Libération, dont Michel Serres fait aussi la une, avec un portrait fleuve évidemment, signé Robert Majuri, de philosophe à philosophe, où je lis les leçons de natation de Michel Enfant, pendu au ventre par une corde à des potences sur le quai, et par un philosophe décédé ce week-end, et par des journaux, je découvre l'idée d'une petite patrie. C'est une jolie chose que les racines, parfois, quand elles se colorient de tendres colifichets, telles ces villes qui veulent se doter d'un blason ou rénover celui que l'histoire leur légua. C'est un dossier de Lyonne Républicaine. Corse ce matin, lui, salue la victoire hier à Olbia en Sardaigne, devant 1000 spectateurs de la Squadra Corsa, officieuse équipe de Lille, face à son homologue sarde, au pénalty. C'était plus qu'un match liche. Est-ce que ce match était plus important que la défaite du Gazélec Ajaccio face au Mans qui relègue Ajaccio en national? Des journalistes ont été pris à partie. C'est un méchant folklore, ça, pas une identité.
En Chine, une femme vit pour un souvenir.
Et Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos, a rencontré Zhang Li, qui a 82 ans et qui n'appartient qu'à son fils, qui s'appelait Wang Nan, lycéen de joyeuses lunettes carrées, qui aimait la photographie et qui, le 3 juin 1989, est parti photographier la libre jeunesse de la place Tiananmen à Pékin. Il ne redoutait qu'un coup de matraque et s'était protégé d'un casque de moto. « Il est impensable que l'armée du peuple tire à balles réelles sur la jeunesse de Chine », lui avait dit sa maman, qui ne se le pardonne pas, car Wang Nan est mort à l'aube du 4 juin quand une balle a transpercé son front et des soldats enterrèrent son corps à la va-vite, pauvre corps expulsé de terre par des pluies torrentielles et que sa famille reconnut à la morgue. Et depuis, Zhang Xianling demande une vérité qu'elle connaît déjà, que son fils a été tué par l'État, mais cette vérité, elle veut l'entendre des autorités de ce régime qui la surveille et qui au monde veut imposer sa loi. Le journal Le Monde raconte comment une exposition obscène s'est tenue en mars dernier au Palais des Nations Unies de Genève. La Chine montrait en photo de propagande comment les Ouïghours étaient heureux jouant de la musique ou faisant du toboggan. Dans la région du Xinjiang, 1 million de Ouïghours, minorités musulmanes et persécutées, sont actuellement dans des camps, rappelle Le Monde. Mais il y a plus triste encore, et c'est dans le New York Times. Une universitaire australienne, Louisa Lim, spécialiste de la Chine, raconte comment des étudiants chinois sont venus l'interpeller après qu'elle ait donné une conférence sur Tiananmen. Pourquoi devons-nous revenir sur cette période? Quelle utilité pour notre génération? Est-ce que cela ne met pas en danger ce que le gouvernement chinois appelle une société harmonieuse? Et ce n'était ni de l'ignorance, ni du négationnisme. Ces étudiants chinois savaient, mais contestaient l'utilité même de l'histoire et de la mémoire. Que sommes-nous si nous enterrons les vérités? Je lis dans Philosophie Magazine qu'un aimable philosophe italien, Andrea Baldini, défend l'idée que la mode et l'élégance ne seraient pas chose futile. Il enseigne en Chine. Est-ce un hasard? Qu'en penser? Je lis dans La Croix l'appel à témoins de Jean-Marc Sauvé, qui préside la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il demande aux victimes de venir témoigner. Je lis dans Mediapart un article qui nous dérange puisqu'il parle d'un journal que je cite souvent, Télérama, prestigieux hebdomadaire, mais qui vient de licencier 2 journalistes importants pour des faits de harcèlement sexuel ou moral datant certains des années 90. Il les conteste. On parlera de Télérama devant les tribunaux. Étrangeté des temps.
Et rapidement, Claude, quelques héros dans la presse. Rapidement.
Qui, comme chaque lundi, viennent du sport, héros du vélo, tel dans L'Équipe et la Provence, Richard Carapaz, venu de l'Équateur et de la grande pauvreté, auquel son papa transporteur de poulets avait offert un vélo trouvé dans une décharge municipale. Il vient de remporter le Giro. Héros d'autres héros cyclistes auxquels la Voix du Nord prête une renommée. Ils ont pédalé 158 km dans la classique Lillardelot, épreuve reine des cyclotouristes. Et puis, et j'en termine, et j'y suis sensible. Il y a un corps ce matin dans la presse, généreux et débordant de noble graisse, serré dans un short blanc et or, celui de Andy Ruiz qui, à 7 ans au Mexique, comme il était déjà gros, boxait contre des gens plus âgés que lui. Il est devenu champion du monde des lourds, toute fédération confondue. Son corps sublime, resplendissant, irradie L'Équipe.